Je réitère le souhait de bienvenue à chacun et à chacune. Bienvenue dans cet endroit qui vous est peut-être inhabituel ou peu familier. Mais sentez-vous, je le répète comme notre cher pasteur vous l'a dit en introduction, à l'aise parmi nous. Alors nous lirons deux textes bien connus en rapport avec les circonstances qui nous préoccupent, qui nous occupent ce matin. Deux textes qui font référence aux enfants. Deux textes que nous trouvons dans l'évangile, entre autres de Matthieu, au chapitre 18 et au chapitre 19. Et le premier texte se trouve en Matthieu 18, des versets 2 à 4. Et c'est Jésus qui parle et qui dit ceci. Alors Jésus appela un petit enfant, Matthieu 18, verset 2, le plaça au milieu d'eux et dit, « Convertissez-vous, changez d'orientation, de direction, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous ne rentrerez point dans le royaume des cieux. » Et puis, on ne va pas lire le verset 4, mais on va faire un saut jusqu'au chapitre suivant, verset 13, chapitre 19, donc, verset 13 à 15. Où nous lisons ceci. Alors des gens lui amenèrent des petits-enfants, afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples leur firent des reproches, et Jésus dit, cette parole bien connue, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour leurs pareils, ou bien est pour leurs semblables, ou est encore pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et partit de là. Laissez venir à moi les petits enfants. Alors la plupart des églises protestantes évangéliques ne pratiquent pas le baptême des enfants. Pourquoi ? Bien parce que leur théologie, notre théologie doctrinale, se base essentiellement sur cette référence qu'est la Bible parole de Dieu. En bref, dans le Nouveau Testament, et on ne va pas commencer à défendre l'un ou l'autre point de vue, on ne trouve pas d'exemple relatif à une forme de pédobaptisme quelconque. Au contraire, l'expression qui revient de façon assez régulière, c'est, dans le livre des Actes en l'occurrence, « ils crurent et se firent baptiser ». Et on voit à travers cette expression que la confession de foi précède le baptême. La déclaration de foi précède le baptême. Alors à moins que de n'avoir un enfant précoce ou un bébé précoce comme celui qu'on voit dans cette publicité là, qui pour la rapidité d'Internet, qui s'adresse à son papa et son papa qui ouvre des yeux grands comme ça, je pense qu'il y a peu de chances que au réveil lorsque Damien, par exemple, se penche sur le berceau de sa petite Élisée pour lui donner ou lui proposer le biberon, Élisée lui dit « J'ai tout compris, je veux me faire baptiser dimanche prochain ». C'est fort hasardeux, nous l'admettrons. Le baptême a donc lieu plus tard, après un cheminement spirituel et personnel. Ce que, par contre, nous proposons et qui d'aucune manière n'est le pendant ou bien la contrepartie du baptême, c'est la présentation des enfants, la consécration des enfants, qui trouve son origine dans le Premier Testament, dans l'Ancien Testament, entre autres dans le livre de l'Exode, chapitre 12, verset 3, où nous disons, chapitre 13, verset 2, pardon, où Dieu dit à Moïse, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël. » Et puis deux autres exemples sont souvent cités dans le Premier Testament, dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. L'exemple de Samuel, qu'Elkana et Anne, les parents, viennent présenter au temple. Et puis, bien évidemment, l'exemple de Jésus en Luc chapitre 2, où nous voyons le vieux Siméon prendre l'auteur du salut, l'auteur de notre salut dans ses bras. Et puis s'en aller en paix. Alors, une question, une première question, mais que représente alors, quel est le sens de la présentation des enfants? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela représente? Eh bien, le premier but de la présentation des enfants, c'est de témoigner publiquement, officiellement, devant Dieu, de la reconnaissance que nous avons pour ce cadeau merveilleux lié à la venue de ce petit être. C'est ce que Mehdi nous a rappelé à travers son introduction tout à l'heure. Premier objectif de la présentation d'un enfant, témoigner notre reconnaissance pour l'arrivée, pour la venue de cet enfant qui vient agrandir la famille. Puis deuxième objectif de la présentation, eh bien, c'est de demander à Dieu qu'il couvre cet enfant de sa bénédiction, qu'il lui fasse du bien, qu'il remplisse cet enfant de bénédiction dans sa vie et qu'il le consacre à son service et à lui. Et enfin, le troisième élément principal lié à la présentation d'un enfant, c'est aussi l'engagement public et plus solennel que les parents prennent devant l'Assemblée et devant Dieu, de s'engager à élever leur enfant dans la foi chrétienne, à faire en sorte que leur progéniture se familiarise avec les Saintes Écritures et avec la prière. Voilà les trois éléments qui sont compris finalement dans la présentation d'un enfant au Seigneur. Alors, pour en revenir au texte que nous avons lu, et en particulier le deuxième texte dans Matthieu 19, après avoir abordé un enseignement sur la famille, sur le mari, sur la femme, sur le mariage, sur l'homme, sur la femme, sur le mariage, sur le divorce aussi malheureusement, sur le célibat, Jésus en arrive à parler au sujet des enfants. Et il utilise un événement fortuit, pour autant que les choses soient fortuites avec Dieu, lorsque des mamans arrivent à travers la foule, elles se frayent un chemin accompagnées de leur enfant pour se diriger vers Jésus afin de recevoir de la part de Jésus une bénédiction particulière pour leur progéniture. Mais ça ne plaît pas aux disciples, et à la vue de l'arrivée des enfants, les disciples sont scandalisés et ils chassent les enfants. Ils les refoulent avec leur mère. Mais pour bien comprendre le contexte de l'époque, il est important de rappeler que le statut des enfants dans la société juive de l'époque, eh bien, était au bas de l'échelle sociale. Ils étaient semblables au statut, le statut des enfants était semblable au statut des esclaves, des serviteurs. On ne prenait pas grande importance aux enfants. On était à la limite de les mépriser. C'était un fardeau, des bouches à nourrir. C'était juste une main-d'œuvre bon marché, finalement. Donc les enfants, à l'époque de Jésus, étaient très mal considérés. Rien à voir avec les enfants rois que l'on peut rencontrer de nos jours dans nos sociétés. Et je me souviens à cet effet d'une belle tirade de langue et d'un beau pied de nez auquel j'ai eu droit de la part d'un enfant de 5 ans environ il y a quelques années, lorsque je lui ai demandé de ne pas crier dans le couloir, dans le corridor des classes maternelles. Ma classe était juste à côté de la classe des enfants de maternelle, là. Et puis l'enfant, là, il a commencé à me passer la langue, à me faire un pied. Ça m'a laissé pantois. Il est inimaginable de penser que ce cas de figure se soit présenté à l'époque de Jésus, vu la rigidité éducative qu'il y avait, qui était de rigueur. Alors, pour en revenir à notre récit, Jésus est indigné du comportement de ses disciples. Les mamans veulent venir avec leur enfant. Elles font l'effort de braver les interdits, finalement, les statuts. Elles arrivent avec leur enfant pour que Jésus leur accorde une bénédiction particulière. Et puis, elles sont toutes dépitées, les enfants aussi. ils doivent rebrousser chemin. Parce que les disciples les ont freinés dans leur élan. Alors, Jésus est indigné, comme je le disais il y a un instant, et il s'oppose évidemment à cette intervention des disciples, et prononce cette phrase que nous avons lue, bien connue, « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour leurs semblables et pour ceux qui leur ressemblent. » Alors non seulement Jésus ne va pas mépriser les enfants, mais il va en outre les prendre en exemple, en faire des modèles. Et il va dire, ben, à ses contemporains, si vous voulez avoir accès au royaume des cieux, alors il faut que vous deveniez semblable à ses enfants. Alors qu'est-ce qui caractérise finalement la psychologie de cette tranche d'âge? Qu'est-ce qui caractérise finalement la psychologie de ces enfants? Il faut savoir, j'ai oublié de faire référence à cela, que le terme que Jésus utilise dans ses propos, dans la langue originale, c'est « laisser venir à moi les paedeon ». Il aurait pu utiliser un autre terme pour désigner enfant, même d'autres, plusieurs autres termes, notamment « laisser venir à moi les népios » ou « laisser venir à moi les technon » ou « les païs ». Les technon signifient d'une façon plus générique les enfants, les descendants, et les népios signifient quant à eux les nourrissons. Mais Jésus cible une tranche d'âge bien particulière parmi les enfants. Ce sont les petits-enfants dont l'âge avoisine entre 4 et 8 ans. Laissez venir à moi les païdéon, les païdéon. Et qu'est-ce qui caractérise justement, comme je le disais il y a un instant, le tempérament de ces enfants, la psychologie de ces enfants? Eh bien, d'une part, c'est leur humilité. Et puis d'autre part, c'est leur foi, leur confiance. Humilité et confiance. Humilité et foi. L'orgueil de l'être humain constitue un obstacle premier à notre accessibilité au royaume des cieux. Premier obstacle. L'orgueil de l'être humain se pavane du haut de sa suffisance. Il méprise la grâce. L'orgueil s'oppose à ce que l'homme reconnaisse ses propres erreurs, ses fautes, ses travers, ses propres faiblesses. L'orgueil est bien évidemment l'opposé ou à l'opposé de l'humilité. Et c'est le prophète Jérémie qui écrit dans le livre qui porte son nom, chapitre 49, verset 16, « L'orgueil du cœur aveugle et égare. » L'orgueil du cœur aveugle et égare. L'orgueil empêche l'homme finalement de voir clair et le met sur une voie d'égarement. L'homme orgueilleux qui est résolu dans son orgueil, de maintenir son orgueil au premier plan dans sa vie, eh bien, est un homme qui est aveuglé et qui est perdu. Or, pour avoir accès au royaume de Dieu, trois fois saint, l'homme doit être lavé, doit être purifié de ses fautes, de ses souillures. L'homme doit être purifié. Pour qu'il soit lavé, pour qu'il soit purifié, eh bien, l'homme doit humblement, justement, reconnaître son état de misère spirituelle, son état de faillite morale. L'homme doit reconnaître humblement son besoin de recevoir la grâce de Dieu. Et l'orgueil s'oppose à cette démarche. L'orgueil se pose en obstacle majeur à ce que l'homme fasse cette démarche d'humilité pour reconnaître ses fautes, d'une part, et saisir la grâce, le pardon que Dieu veut lui accorder. Parce que Dieu accorde son pardon, il a tout accompli à travers l'œuvre de la croix que nous rappelons dimanche après dimanche et que nous avons encore rappelé ce matin. Tout a été accompli. Il suffit à l'homme de reconnaître son état et de saisir la grâce et le pardon de Dieu. Alors, hormis l'humilité, il y a un autre élément qui caractérise les paideon. Et cet autre élément qui se trouve en parallèle avec l'humilité qui caractérise les enfants, c'est tout simplement la foi, la confiance que l'on peut trouver chez l'enfant en bas âge. Vous savez, les enfants, les petits-enfants, ils croient volontiers ce qu'on leur raconte, hein, sans se poser de questions. Ils accueillent même les choses surnaturelles sans aucun problème. L'enfant croit fermement à la parole des adultes. Et si une grande personne ne tient malheureusement pas la promesse qu'il a faite à un enfant, à un petit enfant, le petit enfant vit ça comme un drame. C'est un drame si un adulte ne tient pas parole par rapport à une promesse qu'il a faite à un petit enfant. Parce que l'enfant croit fermement à la parole d'adulte. Les enfants ont confiance en leurs parents. Les enfants ont une totale confiance en leurs parents. Et je me souviens quand, je ne sais plus si c'est Nicolas ou Nathan ou bien les deux, eh bien, je leur disais, en tout cas ils avaient 4-5 ans, ils étaient dans cette tranche d'âge, et je leur disais de grimper jusqu'aux 2/3 de l'escalier. Bon, c'est peut-être exagéré 2/3, mais très haut sur les marches de l'escalier. Puis je les invitais à se lancer dans les airs et à saisir mon cou comme ça. Et alors là, de bon cœur, sans réfléchir, avec une confiance totale en moi, ils sautaient dans les airs. Alors, il me saisissait par le cou, il m'agrippait. Il avait la confiance totale que j'allais le rattraper, qu'il n'allait pas s'écraser sur le sol. Et telle est aussi l'attitude que Dieu attend de chacun d'entre nous. Telle est aussi l'attitude que Dieu attend des adultes à son égard. Une foi, une confiance totale, ferme, entière et inébranlable. La foi en ses promesses, la foi en son pardon, la foi en sa grâce, la foi en son royaume, le royaume de Dieu. Si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, dit Jésus. Ce royaume de Dieu qui est à la fois, c'est une réalité spirituelle qui est à la fois présente déjà dès à présent, dès maintenant, dans nos cœurs, lorsque l'on accepte la Seigneurie de Jésus dans nos vies, mais royaume de Dieu qui est une réalité aussi future, à venir, eschatologique, lorsque le royaume sera complètement accompli, la promesse du royaume sera complètement accomplie. Réalité présente, réalité future. Nous pouvons avoir accès à ce royaume. Nous pouvons entrer dans ce royaume. Si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, dit Jésus, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà la clé. Et on va terminer par là. Voilà la clé qui donne l'accès au royaume des cieux, au royaume de Dieu, à ce royaume de paix, à ce royaume de joie, à ce royaume de splendeur, à ce royaume d'éternité où il n'y aura plus, comme Eric le rappelait dans sa présidence tout à l'heure, il n'y aura plus de maladie, où il n'y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus de deuil, mais où tout sera pleinement parfait. Voilà la clé qui ouvre cette porte au royaume de Dieu dans lequel eh bien, peut se trouver la finalité de notre histoire. Si nous devenons comme des petits-enfants, empreints d'humilité et de confiance, de foi, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Mais Dieu a tout accompli, Dieu a tout réalisé pour que notre destinée soit ce lot merveilleux qu'il nous a réservé, l'entrée dans ce royaume pour l'éternité.